Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 10 mai, le meurtrier présumé d'un policier à Avignon stoppé dans sa fuite vers l'Espagne. 5 autres personnes ont été arrêtées. Des perquisitions sont en cours. Le Premier ministre rendra hommage demain à Éric Masson à Avignon. La vaccination ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans. Nous irons dans le vaccinodrome de la Défense à Nanterre. Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, sera l'invité de ce journal. Il nous dira comment il entrevoit la réouverture des terrasses. Dans RTL Midi aussi, Michel Fournier est hospitalisé à Paris. Le pronostic vital du tueur en série serait engagé. Il risque fort de partir avec ses terribles secrets. Comment fonctionne Nordal Lelandais devant les assises de Savoie? Les psys dressent ce matin le portrait d'un homme très en contrôle. 300 blessés sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. De nouveaux affrontements entre Palestiniens et Israéliens. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Il pleut des cordes dans l'est du pays.
Oui, avec encore 5 départements en vigilance orange, pluie, inondation dans le centre-est, entre l'Ain et l'Ardèche. Et il pleut encore bien entre la Méditerranée et le Grand Est de manière générale, avec des pluies plus soutenues dans la partie sud, localement orageuses avec beaucoup de vent. La Corse reste à l'écart avec un ciel variable et du vent également. Et puis sur l'ouest du pays, un temps plus calme entre nuages, éclaircies, belles éclaircies parfois, et quelques pluies éparses. Les températures sont en chute libre par rapport à hier, mais on se rapproche des valeurs de saison. De 15 à Brest à 21 à Strasbourg, 18 à Nîmes et Metz, 20 à Paris et Lille.
La question du jour sur RTL.fr. Souhaitez-vous que la gauche revienne au pouvoir? Eh bien, il y a 11% de oui, 84% de non. On attend vos appels, vos témoignages au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Et puis l'autre sujet du jour, ce sera soutenez-vous la nouvelle tribune des militaires? Allez-vous la signer? Elle est lancée cette fois par des militaires d'active, c'est-à-dire des militaires opérationnels. Il s'agit de la survie de notre pays, écrivent-ils, et vous nous direz ce que vous en pensez. Le Premier ministre Jean Castex reçoit ce soir les syndicats de police après les deux drames d'Avignon et de Rambouillet ces derniers jours. Et puis la victoire de François Mitterrand il y a 40 ans. Quel souvenir gardez-vous de cette date? Rendez-vous à 13h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La traque durait depuis mercredi avec une extrême mobilisation. Plus de 80 policiers étaient à la recherche de l'homme qui avait tiré sur Éric Masson sur un point de deal à Avignon, tuant ce brigadier de 36 ans. Le tireur présumé a été stoppé hier soir dans sa fuite vers l'Espagne. Et il y a eu d'autres arrestations, Thomas Proutot, notamment ce matin.
Oui, deux interpellations aux aurores, d'après nos informations, dans un quartier d'Avignon. Il s'agit là de deux personnes qui auraient caché le tueur présumé pendant plusieurs jours avant sa fuite, de logeurs donc. Ils auraient fourni planques et nourriture, mais ce ne sont pas les seuls suspects derrière les barreaux. Dans la voiture interceptée hier soir au péage de Rémoulin sur l'A9, en plus du tireur, il y avait aussi un jeune complice, désormais en garde à vue lui aussi, le chauffeur également, un homme plus âgé, recruté pour ce voyage vers l'Espagne. Enfin, la sœur du tueur présumé a également été arrêtée, soupçonnée d'avoir aidé son frère dans sa fuite.
Et que sait-on de lui, justement?
Alors, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant d'un quartier d'Avignon. Il est connu des services de police, mais pas comme un grand délinquant, loin de là. C'est un petit trafiquant, un charbonneur, comme on dit, d'après nos informations, qui vendait des petites quantités de stupéfiants. Il aurait déjà été condamné, mais quand il était mineur. Les enquêteurs cherchent désormais à le confondre. Ils disposent d'éléments matériels solides qui incriminent le suspect, mais bien sûr, ils font démontrer qu'il est bel et bien impliqué ou obtenir des aveux et comprendre si c'est bien lui. Pourquoi ce jeune homme portait-il une arme mercredi dernier et pourquoi il a tiré délibérément sur un policier en service qui faisait un simple contrôle sur un point de deal.
Thomas Proutot, Jean Castex reçoit ce soir les syndicats de police après les deux drames d'Avignon et de Rambouillet. Il réclame une réponse plus forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Le tueur en série Michel Fournier est donc hospitalisé en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alice Moreno, sa santé était fragile depuis plusieurs mois. Il ne sera jamais jugé pour tous ses crimes.
Eh bien, en tout cas, c'est la crainte des proches des victimes. Michel Fournieret a été extrait de sa cellule de Fresnes il y a 2 jours et hospitalisé en urgence à la Salpêtrière. Il souffre de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale. Cela fait un moment, vous le disiez, que les enquêteurs ne comptent plus sur ses déclarations. Il a été hospitalisé à de multiples reprises ces derniers mois. Cette fois-ci, selon les informations du Parisien, son pronostic vital serait engagé. un protocole de fin de vie serait enclenché par les équipes soignantes. L'ogre des Ardennes a pourtant tant de secrets à livrer. Il est mis en examen dans des enquêtes pour le meurtre de 4 fillettes. Pourrait être impliqué dans une vingtaine de cold cases. La semaine dernière encore, des fouilles étaient menées dans les Ardennes dans l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Les enquêteurs se fiaient alors au témoignage de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, pour tenter de retrouver une trace de l'enfant. Deux nouvelles fouilles pourraient être ordonnées dans la région sans Michel Fourniret, là encore.
Ah, Alice Moreno. Vaccinée pour préparer des jours meilleurs. On entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Toutes les personnes de plus de 50 ans sont désormais éligibles et le cap des 20 millions de personnes vaccinées au 15 mai devrait être franchi. Nerissa Emani, vous êtes au vaccinodrome de Paris-La Défense où les rendez-vous s'enchaînent.
Oui, Stéphanie vient tout juste de se faire vacciner. Cette infirmière de 54 ans était prioritaire, mais elle a préféré prendre le temps.
J'ai attendu mon créneau d'âge pour m'inscrire. C'est hyper bien organisé, c'est super, impeccable. Contente, oui, oui, ça y est, c'est fait.
Le sourire aussi sur les lèvres de Véronique, 50 ans. Elle avait essayé de se faire vacciner en vain, mais désormais, elle est dans les règles.
Il y a certains centres qui ne voulaient pas me prendre. Là, bah, en fait, il n'y a pas de souci, hein, ils m'ont vaccinée. Moi, j'attendais d'être vaccinée avec le Pfizer.
Ça va, vous n'avez pas mal nulle part.
Non. C'est une petite piqûre de rien du tout.
Karima, 54 ans, attend son tour dans la file. Un peu anxieuse, cet agent d'entretien ne veut pas prendre de risques au travail.
Au début, je ne voulais pas. Et puis, comme j'ai eu beaucoup de familles qui sont décédées du Covid, je me suis dit, il faut se faire vacciner. J'ai mes parents qui sont vaccinés, tout va bien, mes sœurs. Si eux, il n'y a pas eu de soucis, donc pour moi aussi.
Prochain rendez-vous dans un mois pour Karima qui ressort de l'aréna soulagée.
Et pour aller plus loin, nous sommes avec Olivier Guérin, médecin au CHU de Nice et membre du conseil scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Le taux d'incidence continue de baisser. Est-ce selon vous le résultat de la vaccination sur les personnes les plus âgées ?
Alors le taux d'incidence qui baisse, c'est à la fois le résultat de la vaccination d'une manière générale, hein, sur les personnes âgées qui sont des personnes à risque, c'est surtout de la pression hospitalière qui était visée et leur sauver la vie, puisque le risque était majeur, et puis des mesures de restriction collective et la bonne adhésion aux mesures de restriction individuelles et à l'adhésion aux mesures barrières. C'est surtout ça qui fait baisser actuellement l'incidence.
20 millions de personnes auront été vaccinées au moment de la réouverture des terrasses dans quelques jours. Est-ce suffisant ? Est-ce qu'on est prêt au fond ?
On a rendu un avis, le conseil scientifique, pour dire que à la fois, évidemment, on aspire tous à cette levée progressive des mesures de restriction collective, mais ça engage à deux éléments majeurs finalement. C'est que, un, il faut encore accélérer la campagne de vaccination avec une cible à 35 millions de Français vaccinés d'ici le 30 juin. C'est ce que nous proposons pour réussir à maintenir l'épidémie à un niveau bas. Et puis surtout, le fait que les mesures collectives soient levées, ça nous engage, nous, dans nos comportements individuels, à être très vigilants. Le virus est toujours là. Et donc notre cri d'alerte finalement, c'est de dire attention, il est là. C'est pas parce qu'on a le nouveau le droit de faire des choses qui nous étaient interdites depuis un certain temps et dont on rêvait tous qu'il faut pour autant prendre des risques à titre individuel. C'est le moment ou jamais de renforcer encore plus nos protections individuelles.
Pas de relâchement dans les gestes barrières, j'entends bien. Mais est-ce que le gros point noir finalement, c'est pas la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca ? Les 3/4 seulement des doses reçues ont été injectées.
Alors évidemment, autour de ce vaccin en particulier, des vaccins à vecteurs viraux d'une manière générale, ça a été à la fois une communication compliquée et puis une prudence qui était nécessaire mais qui a entaché de ce fait l'image de ce vaccin. Maintenant, ça reste un vaccin qui est très sûr et efficace. Je dirais que de toute façon, il y aura d'autres vaccins encore, ce qu'il faut faire, et d'autres doses, y compris sur les vaccins ARN, et qu'il faut surtout se vacciner. Et l'AstraZeneca reste encore un bon vaccin. Évidemment.
Les États-Unis, Olivier Guérin, abandonnent l'idée de l'immunité collective, car entre les variants et les réticences au vaccin, les autorités pensent qu'elles ne l'atteindront pas. Est-ce que vous diriez la même chose pour la France ?
On sait qu'avec des variants qui sont plus contagieux, atteindre l'immunité collective, c'est avoir à peu près 75 à 80% de notre population totale, hein, enfants compris, qui sont ou vaccinés ou immunisés naturellement. On sait que c'est difficile, donc il faut se préparer effectivement à vivre avec un virus qui va encore circuler, Mais le but, c'est qu'ils circulent le moins possible. Et c'est pour ça qu'on aura certainement encore des semaines ou des mois de vigilance personnelle. On aura cette nécessité-là parce que le pari de l'immunité collective est difficile à gagner. C'est vrai.
Au fond, comment vous voyez l'été ?
Alors, on voit l'été avec une forme d'inquiétude, une forme de soulagement aussi, évidemment, mais une forme d'inquiétude, parce qu'il faut vraiment que nos concitoyens, nous-mêmes, nous soyons bien conscients que les mesures qui sont annoncées de levée de ces restrictions collectives doivent, encore une fois, nous imposer encore plus de responsabilités individuelles et surtout pas l'idée que c'en est fini.
Merci beaucoup, merci Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, d'avoir été l'invité de ce journal. On ne lâche rien, donc c'est le message du jour. Les députés examinent aujourd'hui le projet de sortie de l'état d'urgence avec une levée progressive des restrictions. Un vent de liberté s'est levé hier en Espagne où les habitants ont pu quitter leur région ou se rassembler dans la rue. Un assouplissement devrait être annoncé aussi aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et pendant ce temps, la Chine, qui veut à tout prix se protéger d'une contamination extérieure du virus, va installer une ligne de démarcation au sommet de l'Everest, à 8840 mètres d'altitude. Pékin ne dit pas comment il compte marquer son territoire à cet endroit-là. On fait une pause et dans un instant, retour sur le 10 mai 81. Que reste-t-il de la gauche ?
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il y a 40 ans, jour pour jour, la gauche arrivait au pouvoir pour la première fois sous la Ve République. Le visage de François Mitterrand apparaissait à l'écran à 20h, vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,8% des voix.
Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire, elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre.
Et c'était l'alternance. Aujourd'hui encore, François Mitterrand reste le président qui a signé un record de longévité à l'Élysée, 14 ans. Alors souhaitez-vous que la gauche revienne au pouvoir ? C'est la question du jour sur RTL.fr, sur laquelle vous avez l'intention de revenir avec les auditeurs, Pascal Pro.
Je souhaiterais effectivement surtout que la gauche républicaine, Christelle, retrouve sa place dans le débat public. Alors c'est quoi la gauche républicaine ? Eh bien c'est celle qui refuse toute complaisance avec l'islamisme et revient à son ADN, à savoir une hostilité à toutes les religions. La gauche républicaine, elle est laïque, bien sûr. Elle est aussi universaliste. Alors oui, une certaine gauche, par recherche d'un électorat de substitution, par tiers-mondisme, tourne le dos à une gauche que pouvait incarner hier François Mitterrand ou Jean-Pierre Chevènement. Cette gauche-là, elle nous manque et ce 10 mai est l'occasion de le rappeler.
Bien, Marie-Bénédicte Allaire, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ?
Eh bien, un archipel fragmenté. Il y avait deux grandes forces en 1981. Le PC, encore très puissant, aux dernières européennes, il fait 2%. Quant au PS, alors en pleine ascension, il subsiste surtout au niveau local. La présidentielle de 2017 a accéléré la décomposition. Jean-Luc Mélenchon, qui avait quitté le PS 10 ans avant, a fait lui un pari payant. Et la France insoumise revendique aujourd'hui le titre de premier parti de l'opposition de gauche. Et les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, longtemps minoritaires, voire groupusculaires, sont aujourd'hui en mesure de lui disputer ce titre.
Et ce matin, Martine Aubry, la maire de Lille, qui a été ministre de François Mitterrand, a fait ce constat en déposant une gerbe.
Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce qui a été fait. C'était une période où la gauche était unie, vraiment unie, où il y avait une véritable vision, où nos valeurs étaient portées fort. C'est cela qui manque pour obtenir à nouveau la crédibilité de Français qui pourtant souffrent, mais ne savent plus très bien vers qui se tourner.
Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche peut revenir au pouvoir ?
Pas dans les conditions où elle est aujourd'hui. Chacun se regarde le nombril et explique qu'il est pour l'unité de la gauche, mais derrière lui. Tant qu'on fait cela, ça ne marche pas. On dit aujourd'hui la France est de plus en plus à droite. Mais oui, parce que nous ne sommes plus audibles, parce que nous ne portons plus nos valeurs. Alors que tous les jours, des élus de gauche sur le terrain créent des réponses sur la transition écologique, sur la justice sociale, sur l'emploi, sur la démocratie. C'est vers eux aussi qu'il faut se tourner pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'ils portent un projet de gauche.
Martine Aubry ce matin au micro RTL de Franck Hanson. Ils ne sont plus audibles, hein, elle disait. Peuvent-ils vraiment revenir au pouvoir, Marie-Bénédicte ?
Eh bien, écoutez, la multiplication des candidatures annoncées ne permettrait pas, en l'état, à aucune de se qualifier pour le second tour. Alors, une candidature d'union, eh bien, Jean-Luc Mélenchon la refuse, sauf si c'est derrière lui. Pour la première fois depuis 10 ans, les communistes auront leur candidat, Fabien Roussel. Reste le PS et les écologistes. Il n'est pas exclu qu'ils s'entendent, mais qui portera le flambeau ? Yannick Jadot, Anne Hidalgo, une ou un autre, et comment les départager ? Une primaire est en discussion, mais pas du tout décidée. Bref, il reste beaucoup d'obstacles et un an seulement pour les franchir.
Et vous pouvez nous appeler au 3210 pour en débattre de cette gauche aujourd'hui et demain. À noter aussi ce joli titre de Libération ce matin à propos des gauches. Ce titre qui dit « La crise de la quarantaine ». Une nouvelle tribune signée par des militaires et publiée hier soir sur le site du magazine Valeurs Actuelles. Une fois encore, les auteurs appellent à un sursaut pour, je cite, « la survie du pays ». Mais à la différence du précédent texte écrit par des militaires à la retraite, cette fois les signataires anonymes se présentent comme des soldats d'active. « La guerre civile couve en France », écrivent-ils, Brice Dugénie.
Absolument, cette lettre fait référence à la guerre civile, au poilu de 14, à la résistance en 40, fait état de banlieues abandonnées, d'accommodement avec la délinquance et d'islamisme auquel les dirigeants font des concessions, écrivent-ils. Face à cela, les militaires opposent la lâcheté, la fourberie, la perversion des dirigeants et de la hiérarchie. C'est une manière de soutenir les militaires en retraite qui étaient, vous savez, à l'origine de la première publication et ils écrivent « Nos aînés dont vous avez tant piétiné l'honneur ».
Mais qui sont exactement ceux qui ont écrit ce texte, Brice ?
Eh bien, c'est le mystère, c'est l'anonymat, on ne sait pas qui et on ne sait pas combien. Alors, ils se disent militaires d'active, récemment entrés dans la carrière, de tout grade et de toutes les armées. Impossible d'en savoir plus parce qu'évidemment, en se présentant comme des militaires d'active, eh bien, ils s'exposeraient à des sanctions puisqu'ils enfreigneraient leur obligation de réserve. Alors, ils se disent apolitiques, mais on sait que c'est sur les sites d'extrême droite que la tribune avait fuité ces derniers jours, et les thématiques abordées par cette tribune sont habituellement celles de l'extrême droite politique.
Brice Dugénie, 150 salariés de la fonderie de Bretagne ont manifesté ce matin devant la sous-préfecture de Lorient. Ils veulent empêcher la tenue d'un comité social et économique qui doit acter la vente de leur usine et donc la séparation d'avec Renault. Ils sont en grève depuis le 27 avril. Une pause et dans un instant, le portrait psychologique de Nordal Lelandais.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Nordal Lelandais, accusé du meurtre d'Arthur Noyer, explique depuis une semaine qu'il s'agit d'un accident. Aujourd'hui, devant les assises de Savoie, c'est un défilé de psychologues et de psychiatres. Aucun d'entre eux ne considère qu'il est fou. Au contraire, Anne Le Hénaff, c'est une personne sous contrôle.
Oui, les deux psychologues parlent d'un homme rarement spontané qui distribue des pièces d'un puzzle. L'une des deux revient sur un moment qui l'a marqué. En parlant de la mort d'Arthur Noyer, il s'est d'un coup mis à pleurer. Des larmes grosses comme des billes. Ça s'est arrêté d'un coup. J'ai eu l'impression qu'on appuyait sur un bouton, quelque chose d'un peu mécanique. Dans son box, Lelandais lève les yeux au plafond et fait non de la tête. Les deux psys évoquent un homme qui souffre de profondes failles narcissiques, blessé par son rejet de l'armée. Là aussi, Lelandais soupire. Il cherche une sécurité affective dans sa relation avec les chiens, qui eux lui sont toujours fidèles. Sinon, il se plonge dans une surenchère d'excitation pour maintenir un niveau de tension fort, pour être dans la toute-puissance. Il consomme de l'alcool, de la cocaïne. Il consomme des femmes, des hommes, des enfants pour expérimenter. Lelandais a en effet reconnu des attouchements sur deux petites cousines. Lorsqu'il a tué la petite Maëlys, il dit avoir revu en elle le visage d'Arthur. C'est peut-être le retour d'une expérience traumatique, tant une psy. L'autre semble douter un peu plus. Elle n'a décelé chez lui aucun élément psychotique ou hallucinatoire.
Anne Le Hénaff en direct du palais de justice de Chambéry pour RTL. À l'étranger, l'esplanade des mosquées à Jérusalem cristallise une fois de plus les tensions et les affrontements entre Palestiniens et Israéliens. 200 personnes avaient été blessées vendredi soir après la dernière grande prière avant la fin du Ramadan. Aujourd'hui, c'est la journée de Jérusalem qui marque la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967 et qui cristallise les tensions. Il y a déjà 300 blessés. Une correspondance de Stéphane Amar.
Oui, la situation reste très tendue ce midi à Jérusalem. Je me trouve à proximité immédiate de l'esplanade des mosquées où des heurts se déroulent depuis ce matin, opposant des Palestiniens aux forces de l'ordre israéliennes. Plus de 200 blessés, 3 hôpitaux à Jérusalem qui accueillent déjà des blessés. Pour l'instant, pas de victimes, mais on craint évidemment tout débordement. Tous les abords de la vieille ville ont été bouclés, notamment la porte des Lions devant laquelle je me trouve et où sont massées des forces de l'ordre israéliennes et aussi des dizaines de Palestiniens qui attendent. Certains ont des pierres en main, commencent même à lancer des pierres sur les voitures. Notre voiture a échappé de peu à des pierres. La situation reste donc très tendue ce midi à Jérusalem.
Correspondance de Stéphane Hamar.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Rumilly, en Haute-Savoie, qui s'apprête à vivre un moment historique. Jeudi, le GFA Rumilly-Vallières, club de National 3, affrontera l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France. Raphaël Vantard, et vous avez rencontré l'un de ses joueurs.
Pour l'interview, vous n'avez qu'à passer me voir sur le chantier. J'y suis à partir de 7h le matin. Voilà comment ça s'est passé, ma rencontre avec Oussam Bouanali, défenseur du GFA Rumilly-Vallières. Rendez-vous donc au petit matin sur un immeuble en construction à Annecy, à quelques jours de sa demi-finale de Coupe de France face à Monaco.
Là, on est sur un chantier à Annecy. Je suis électricien de bâtiment et c'est ma vie tous les jours, c'est ça, c'est le bâtiment et le foot, les deux, quoi.
La simplicité alliée au talent et à cette graine de folie de la Coupe de France. Tout cela résume assez bien Oussam, qui me montre comment il pose les prises, tire les câbles à la chaîne avant d'aller ensuite à son entraînement de foot.
La veille, je prépare mon sac du boulot, mon sac du foot. J'enchaîne de 7h jusqu'à 16h et après j'enchaîne direct au foot.
Quand vous êtes comme ça sur le chantier, vous y pensez à ce match qui va être historique quand même, demi-finale de Coupe de France?
Ah, un petit peu, mais avec Chef Bruno, ça envoie. Du coup, c'est le boulot.
C'est quoi le plus dur, c'est l'électricien ou footballeur?
Bonne question. Tous les corps de métier ici, ils connaissent, ils ont vu le match. C'est une équipe, on va tout faire, on va saisir les chances qu'il y aura. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on essaiera. Le peu qu'on aura, on va essayer de la tenter, mais on veut gagner. Hein.
Rendez-vous donc jeudi, vous l'aurez compris, Oussam sera un peu le chouchou d'RTL. On lui souhaite évidemment la victoire, synonyme de bonheur, mais aussi de jours de congés supplémentaires pour la finale.
Et l'électricien prendra donc la lumière jeudi soir. Merci Raphaël. Pascal Pro, le dialogue s'ouvre dans 5 minutes au 32-10. Alors, au programme.
On va parler de la tribune, évidemment, des militaires, parce que ce qui est frappant, ça va être intéressant d'ailleurs d'entendre et les auditeurs, mais aussi la réaction de l'exécutif, c'est que cette nouvelle tribune de militaires d'actifs, donc des militaires opérationnels, j'ai envie de dire, elle est un ton au-dessus la tribune des généraux en retraite. Elle annonce quasiment une guerre civile. Oui, de nouveau, la guerre civile couvre en France. C'est des mots extrêmement violents, extrêmement forts. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse? Ça sera évidemment un des sujets. Et puis, vous comme moi, on se souvient assez bien du 10 mai 81. Nous étions en première, peut-être, ou en terminale, je ne sais pas.
Un peu moins. C'est-à-dire qu'il y avait des familles qui faisaient la fête et d'autres un peu moins.
Exactement. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est ce souvenir, au fond. Il y aura la question de la gauche, bien sûr, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un temps heureux, peut-être, hein, pourquoi pas? Donc, tout de suite.
Allez, à tout de suite. Après la météo de Peggy Broche, fini la moiteur tropicale d'hier.
Et oui, c'est vrai qu'on va retrouver des valeurs de saison, en tout cas proche des valeurs de saison, Christelle, aujourd'hui. 15 à Brest, bon comme à Lyon. À Lyon, c'est vrai que c'est un petit peu frais, mais on est sous les pluies là et sous les nuages. 17 à Grenoble, 18 à Limoges, 19 à Marseille, 20 degrés à Reims, Paris, Auch et Perpignan, et même jusqu'à 21 à Strasbourg, et encore mieux, 27 degrés à Ajaccio. Alors, le corps pluvieux qui se décale actuellement vers l'est, attention parce que on a à l'intérieur de ce corps 5 départements en vigilance orange pour pluie inondation. Ça concerne l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche. De manière générale, de toute façon, les pluies sont soutenues dans toute la partie sud-est, localement orageuse, avec du vent. Et puis le gros des pluies remonte également jusqu'au Grand Est. La Corse est épargnée, d'où les 27 degrés à Ajaccio. Il n'y a pas de pluie, on a un ciel variable, mais avec beaucoup de vent. Et puis sur toute la partie ouest du pays, entre l'Aquitaine et les Hauts-de-France, là c'est un ciel de traîne, entre passages nuageux, de belles éclaircies, quelques averses éparses encore, et pas mal de vent sur le nord-ouest.
Et demain, encore un bon arrosage.
Oui, avec des pluies encore bien soutenues. Le matin, entre la Provence et l'Alsace, de la neige également sur les Alpes à haute altitude. Beaucoup d'instabilité en matinée entre les Pyrénées et le centre, avec de fréquentes averses. Et puis cette zone va se décaler vers l'est, entre les Alpes-Maritimes et la Champagne-Ardenne l'après-midi, avec quelques coups de tonnerre possibles. Et puis c'est encore à l'ouest là que le temps sera le plus clément, entre nuages, éclaircies et averses. Et le vent va se généraliser sur l'ensemble du pays demain. Le tout sous des températures encore en baisse, de 14 à Brest, 15 à Toulouse, 17 à Strasbourg, 20 degrés à Lille comme à Marseille.
Ça va baisser encore ou pas? Ça va se stabiliser quand même?
Ça va finir par se stabiliser.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres dans 2 minutes sur RTL.
RTL Midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes avec Raphaël pour évoquer cette nouvelle tribune des militaires. Bonjour Raphaël, votre sentiment?
Bonjour Pascal. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est très grave. Je pense que l'État vacille sur ses fondamentaux parce que là il est contesté sur le fond par des militaires d'actifs et il l'est également dans le corps des gendarmes, il l'est également par la police.
On va développer cette idée dans une seconde. Attention, hein, c'est une poignée, quoi. C'est quelques dizaines, peut-être centaines de militaires. Hein. C'est pas toute l'armée française non plus. Le rappel des titres avec Christelle.
Le meurtrier présumé d'un policier à Avignon stoppé dans sa fuite vers l'Espagne. 5 autres personnes ont été arrêtées. Des perquisitions sont en cours. Samia Belbachir a rencontré l'avocat du principal suspect, maître Louis-Alain Lemaire.
Il est mis en cause dans une affaire qui est très grave. Je suppose qu'à l'issue de la garde à vue, il y aura une décision prise par le parquet, savoir si on le défère ou non, et si on considère qu'il y a suffisamment de charges contre lui. Pour l'instant, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup. Lui, en tout cas, conteste formellement, et on verra ce qui se passera un peu plus tard.
Est-ce qu'il a conscience de l'ampleur de ça?
Ah ben, il est complètement abattu. Il est subjugué, il est étonné. Il me dit, mais j'espère que je ne vais pas prendre pour quelqu'un. Je lui dis, ben non, la garde à vue va essayer d'établir la réalité, la vérité des choses. Et voilà, donc il est confiant en la justice, j'espère. Mais il est effectivement très inquiet. Parce qu'il se dit, si on me soupçonne, qu'est-ce qu'il y a contre moi? Quels sont les éléments? Lui disant qu'il ne devrait y en avoir aucun.
Propos recueillis par Samia Belbachir. Il tient à se défendre en personne malgré la maladie. Bernard Tapie doit assister dans les prochaines minutes à son procès en appel pour des soupçons d'escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé censé solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Il y a 2 ans, il avait été relaxé dans ce dossier. La vaccination élargie à partir d'aujourd'hui à toutes les personnes de plus de 50 ans. Par ailleurs, les députés examinent aujourd'hui le projet de sortie d'état d'urgence avec une levée progressive des restrictions.
Les auditeurs ont la parole.